Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus. Vous êtes sur Radio HDR et sur Radio Principe Actif et c'est Jazz à part. Sur Radio HDR à Rouen, sur le 99.1 FM, sur Radio Principe Actif à Évreux et c'est le 102.4 Jazz à part. C'est aussi sur les sites internet de ces deux radios-là en direct, c'est-à-dire chaque vendredi à 20h et ce jusqu'à 21h. Principeactif.net, radiohdr.com et enfin Jazz à part, c'est après le direct en différé sur le site de l'émission. jazzapart.free.fr. Une heure donc à passer ensemble dans Jazz à part. Ce soir, le thème en sera Sonny Rollins, pas toute la carrière de Sonny Rollins bien sûr. Sonny Rollins au moment de sa première fameuse pause où l'on le découvrait jouant seul dans les brumes du pont de Williamsburg. On aura le temps d'y revenir. Sonny Rollins, qui était né le 7 septembre 1930 à New York, né Theodore Walter Rollins. Que dire sur Sonny Rollins? Il fait ses classes professionnelles à l'école du bebop dès la fin des années 40. C'est en 49 qu'il enregistre avec Babs Gonzalez, et la même année, donc toujours en 49, avec J.J. Johnson et Bud Powell. Dans ses enregistrements jusqu'en 1954, il a l'occasion de jouer avec des artistes tels que Miles Davis, Charlie Parker et Thelonious Monk. Il aura, au début des années 50, quelques démêlés avec la justice, comme beaucoup de ses compères musiciens pour des problèmes de drogue à l'époque. Il va faire la synthèse, Sonny Rollins, dès ses années 50, entre les héritages conjoints de Lester Young pour le phrasé souple et léger et Coleman Hawkins pour la puissance de la sonorité de son saxophone ténor. Et puis aussi, l'univers de Sonny Rollins est fortement empreint des improvisations échevelées de Charlie Parker. Il commence à se faire un nom en 1951, Sonny Rollins, lorsqu'il enregistre sa composition Oléo avec le Modern Jazz Quartet et Miles Davis. En 53 et 54, il travaille avec Thelonious Monk. Il va intégrer le quintet de Clifford Brown et Max Roach en 1955 et il cessera ses activités au sein de ce quintet-là avec la mort de Clifford Brown en 1956. Lors de ces années-là, deuxième partie des années 50, il enregistre avec des labels prestigieux comme Blue Note, Riverside ou encore Contemporary. On est en 1956, il enregistre deux disques fantastiques, Tenor Madness et puis le deuxième, Saxophone Colossus. On commence par là. Soyez les bienvenus, c'est Jazz à part. Thank you. Nous sommes en 1956, vous êtes sur Jazz à part, et c'était à l'instant Sonny Rollins, 1956, une année importante pour le saxophoniste. En mai 56, Sonny Rollins enregistre tout d'abord l'album Tenor Madness avec la section rythmique de Miles Davis alors, c'est-à-dire au piano Red Garland, à la contrebasse Paul Chambers et à la batterie Philly Joe Jones. Et puis, quelques mois plus tard, un mois plus tard, que dis-je, le 22 juin 1956, il entre à nouveau en studio pour enregistrer Saxophone Colossus, dont on entendait là un extrait. Disque certainement beaucoup plus personnel, Tenor Madness a fait date, puisqu'il y a dans ce disque un duo entre Rollins et Coltrane qui a beaucoup marqué les esprits. Mais un mois plus tard, donc en juin, sort Saxophone Colossus, qui va lui véritablement marquer une empreinte indélébile et qui ressemble certainement beaucoup plus à la musique que Sonny voulait jouer véritablement à l'époque. Il y est donc aux côtés de son fidèle ami et son batteur préféré Max Roach. Doug Watkins est à la contrebasse. Doug Watkins y venait à l'époque de l'orchestre de Art Blakey, et au piano Tommy Flanagan. On s'écoutait là donc Saint Thomas, un morceau d'origine caribéenne, puisque s'il est né à New York, Sonny Rollins avait des parents d'origine caribéenne, ils étaient nés aux îles Vierges américaines. Et Saint Thomas, donc, s'est inspiré d'une ancestrale mélodie caribéenne. Ça avait été aussi adapté par Randy Weston un an auparavant, en 1955. Et Sonny Rollins saura s'en rappeler puisque sa maman lui chantait le soir avant de l'endormir. On est en 1957 à présent et Sonny Rollins va à nouveau marquer les esprits car il sera l'un des premiers à utiliser la contrebasse et la batterie sans piano. L'artiste raconte que cette formule-là n'était pas née forcément d'une volonté au départ, mais plutôt aux absences répétées de ses pianistes à l'époque. Mais cette particularité-là de sa musique va devenir véritablement quelque chose qu'il aime profondément. Il va retrouver cette configuration saxophone, contrebasse, batterie très souvent tout au long de sa carrière. En 57 sort tout d'abord Way Out West, ainsi nommé parce qu'il fut enregistré pour un label basé en Californie, le label Contemporary Records. À ses côtés, le fidèle batteur de la firme Shelly Mann et puis Ray Brown à la contrebasse. On s'écoute ça, Way Out West, par le trio de Sonny Rollins. On est en 1957. Thank you. Sonny Rollins, en 1957, à l'occasion de son album Way Out West, ainsi nommé, puisqu'il fut enregistré pour un label de l'Ouest des États-Unis, de la côte Ouest, Contemporary Records, et puis aussi parce qu'il comprenait quelques reprises de musique country célèbre, telle ce I'm an Old Cowhand. Donc on est en 1957, Sonny Rollins rentre en studio, accompagné d'un batteur de la côte Ouest, Chelly Mann, et puis du contrebassiste Ray Brown, et grave ce Way Out West. Il utilise pour la première fois à cette occasion-là la technique qu'on appellera plus tard du strolling, c'est-à-dire qu'il interprétera ses solos de saxophone uniquement accompagné par la contrebasse et la batterie sans accord de piano. Ce disque-là fut enregistré la nuit, puisqu'à l'époque, Sonny Rollins et d'ailleurs ses deux compères, que ce soit Mann ou Brown, enregistraient énormément de musique. Ça fut donc enregistré la nuit pour accorder un peu tous les emplois du temps chargés des musiciens. Et les notes de pochette de l'album racontent assez bien ça. Voici quelques mots de ces notes de pochette. À 7h du matin, après 4 heures d'intense concentration au cours de laquelle ils ont enregistré la moitié de l'album, et alors qu'ils devaient être épuisés, Sonny Rollins dit « Je suis chaud maintenant » et Chelly Mann, qui était debout depuis 24 heures, ajouta « Les gars, j'ai vraiment envie de jouer ». Quant à Ray Brown, qui était également fatigué et qui était appelé par un studio pour l'après-midi, a juste souri. Voilà, 1957, un autre exemple de cette configuration particulière que Sonny Rollins avait défriché à l'époque, saxophone, contrebasse, batterie, c'est le fameux live au Village Vanguard. Donc je vous propose d'écouter ça à présent, c'est Jazz à part. Mm-hmm. A Night at the Village Vanguard était un album publié par le saxophoniste ténor Sonny Rollins, enregistré en novembre 57 pour le label Blue Note Records. Les enregistrements eurent lieu exactement le 3 novembre au Village Vanguard. Rollins a enregistré en deux parties, tout d'abord l'après-midi avec une formation composée par le contrebassiste Donald Bailey et le batteur Pete LaRocca, et l'autre partie du disque fut enregistrée le soir en compagnie d'une autre section rythmique, Wilbur Ware à la contrebasse, Elvin Jones à la batterie. On écoutait là Softly as in a Morning Sunrise. Alors il y a les deux versions existent sur le disque, mais j'avais choisi de vous faire écouter celle enregistrée l'après-midi, plus cool que la seconde, même si la seconde est assez détendue également. Donc on entendait Rollins au sax ténor aux côtés de Donald Bailey à la contrebasse et de Pete LaRocca à la batterie. En 1958, Sonny Rollins enregistre à nouveau un trio saxophone contrebasse batterie pour un album qui fera définitivement date, Freedom Suite. Sur ce disque-là, Sonny Rollins s'expliquait bien des années plus tard, en 2005, à l'occasion d'une interview qu'il donnait à l'occasion du festival Jouant les Pins et qui fut publiée en France par l'Express. Voici ce que nous disait Sonny Rollins. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a assisté à un éveil des consciences. Nous en avions marre d'être enfermés dans une prison invisible, les enceintes de Harlem. Je me souviendrai toujours de mes premiers concerts dans les clubs de la 52e rue qui ouvraient leurs portes aux musiciens noirs. Je n'avais pas encore 20 ans et je me produisais avec Charlie Parker dans le quartier des Blancs. Je croyais que tout avait changé, mais je me trompais. Nous n'étions là que lorsqu'on avait envie de notre musique. Je gagnais assez d'argent à l'époque pour payer un loyer dans un autre quartier, mais personne n'acceptait de louer un appartement à un noir. Mon argent ne servait à rien hors de Harlem. Plus tard, en 58, j'ai enregistré un album, Freedom Suite, dont le premier titre, de 19 minutes, racontait en musique ma colère. C'était le premier morceau instrumental de jazz qui dénonçait de façon explicite le racisme américain. Sur la pochette, j'avais écrit « L'Amérique est profondément enracinée dans la culture noire. Elle a intégré ses expressions, son humour, sa musique. Quelle ironie fait que le noir, qui peut se proclamer partie intégrante de la culture américaine, soit persécuté de façon aussi inhumaine. » Thank you. Sonny Rollins, en 1958, exactement les 27 février, 7 mars 58, il enregistrait en compagnie de Oscar Pettiford à la contrebasse et de Max Roach à la batterie le très beau disque Freedom Suite qui fait encore date. Aujourd'hui, premier véritable manifeste d'un jazz qui se reconnectait avec la lutte pour les droits civiques. Sonny Rollins toujours en avance sur son temps. Peut-être que c'est tout ça justement, ce Rollins en proie au doute, dont l'engagement politique le chamboule beaucoup, qui réfléchit beaucoup sur le statut du musicien noir, qui est un peu aussi bouleversé par l'émergence du free jazz et l'omniprésence de John Coltrane sur la scène du jazz. Bref, le désir aussi certainement de se retrouver, de calmer le jeu, font que Sonny Rollins, en 1959, en mars 59, va complètement disparaître, et ce pour presque 3 ans, de la scène du jazz. Beaucoup de légendes ont été écrites sur le sujet. Je vous propose de lire tout d'abord les mots qu'en a écrit Noël Baleine dans son magnifique ouvrage « L'Odyssée du jazz ». Assailli par le doute, Rollins est un géant au pied d'argile, un colosse qui se sait fragile, mais qui s'alimente de ses angoisses et de ses incertitudes. Rarement satisfait par la qualité de ses disques qu'il réécoute rarement, souvent en proie au pessimisme après un concert dont le public sort pourtant ravi, Sonny Rollins cultive un perfectionnisme aussi idéal qu'illusoire. Il décide alors de se retirer totalement de la scène du jazz et de 58 à 62, on le voit parfois jouer dans les parages du pont de Williamsburg. Une légende naît autour d'un Sonny Rollins solitaire, perdu dans le brouillard de la nuit new-yorkaise à peine éclairé d'un halo de lumière, à la recherche de son ombre, levant son saxophone comme une corne de brume. Mais le mythe, superbe cliché pour une production cinématographique en mal d'imagination, est complètement détruit par le saxophoniste lui-même. On en a fait toute une histoire, mais la vérité est bien plus simple que tout ce qu'on a pu raconter à ce sujet. J'habitais à cette époque avec ma femme dans un petit 2 pièces très inconfortable, à 2 minutes du pont de Williamsburg, qui unit Manhattan à Brooklyn. Les locataires de mon immeuble se plaignaient constamment du bruit que je faisais, en répétant, et je dois reconnaître que même les plus inconditionnels de mes fans auraient eu rapidement la tête cassée par mes gammes et par mes exercices. Comme je répétais généralement le soir, c'est devenu infernal dans la maison et personne ne pouvait plus dormir jusqu'au soir où je suis allé répéter sur le pont. On en a fait tout un plat, on a fait croire que je faisais ça pour des questions de publicité ou de folie douce, mais comprenez-moi, quel endroit plus idéal qu'un pont pour jouer la nuit sans ennuyer ses voisins. Sonny Rollins reviendra en 1962, rasséréné, avec le disque le plus épuré qu'il n'ait jamais produit, The Bridge, en compagnie du pudique guitariste Jim Hall. Thank you. Fin des années 50, j'habitais dans un petit appartement de l'East Village et j'avais tout ce qu'un musicien de 29 ans pouvait désirer. La célébrité, le talent, la chance d'avoir joué avec les plus grands jazzmen comme Charlie Parker. J'avais participé à la création du hard bop, composé des tubes comme Aerie Jean ou Oléo, enregistré mes disques en tant que leader. Pourtant, j'avais l'impression de marcher à côté de moi. Je cherchais quelque chose sans savoir quoi. Puis, un jour d'août, en traversant ce pont qui relie Brooklyn à Manhattan, j'ai été captivé par la lumière qui se propageait le long de cette voie déserte. New York resplendissait devant moi. Les gratte-ciels se reflétaient sur l'eau, les sons des bateaux et du trafic se répondaient en écho. J'ai brandi mon saxo et j'ai joué, m'unissant à cette symphonie comme je l'aurais fait avec des musiciens mais sans limite. Je pouvais hurler plus fort que jamais et accroître la puissance de mon son. Profiter de l'absence de barrières, de murs. Mes notes voyageaient vers l'horizon, je les voyais voltiger dans l'air, suivre les circonvolutions des oiseaux, puis se fracasser sur les rives du port. Jamais je ne m'étais senti aussi libre et puissant. J'avais enfin trouvé mon lieu et donné un sens à ma quête. J'y ai passé des nuits entières, j'y ai vu des aubes et des couchers de soleil que je n'oublierai jamais, se souvient Sonny Rollins, toujours lors de cette interview donnée en 2005 sur cette fameuse pause qu'il avait opérée entre la fin 58 et le début de l'année 62, où on le voyait comme ça, ombre, fantôme, jouer seul sous le pont de Williamsburg. Son retour fut fracassant, c'était au tout début de l'année 1962 que Sonny va revenir au monde de la musique avec ce disque formidable qu'est The Bridge, assez rassemblé, assez pacifié, un disque qui le présente aux côtés de musiciens d'exception. Alors là, dans cette version splendide de God Bless the Child qu'avait créé Billie Holiday, on pouvait entendre Jim Hall à la guitare, Bob Cranshaw à la contrebasse et Harry T. Saunders à la batterie. Ailleurs sur ce disque, dans les sessions de février 62, on peut aussi entendre à la batterie Ben Riley, le batteur de d'un de ses meilleurs amis, à Sonny Rollins, qui était Thelonious Monk. On continue d'évoquer cette pause, ces retours plutôt à la musique de Sonny Rollins. En étant 1962, il sort un autre disque quelques mois plus tard, complètement différent. Il s'agit de Our Man in Jazz. Thank you. Le véritable bridge de Sonny est là, dans cet itinéraire suspendu entre la rive d'une sonorité et d'un phrasé classique et celle d'un concept libertaire rompant les amarres en compagnie des apôtres d'Ornette Coleman. Entre les deux jazz, Rollins est au plus près de sa vérité, a écrit Alex Dutille il y a une dizaine d'années quand était réédité ce disque Our Man and Jazz, qui sortait donc en 62, l'année du retour de Sonny Rollins après presque 4 ans d'absence. Sonny Rollins au saxophone ténor, bien sûr, y était accompagné de Don Cherry au cornet, de Bob Cranshaw à la contrebasse et de Billy Higgins à la batterie. Mais là, on s'entendait un morceau qui n'est pas extrait de l'album original, qui figure donc sur cette réédition. Et c'est Henry Grimes qui tient la contrebasse et non pas Bob Cranshaw. Ça a été enregistré ce If I Could Write a Book quelques mois plus tard, à la sortie du disque, là aussi en concert à New York City. Sur cette pause, Sonny Rollins s'expliquait dès 1963, en mars 63, dans Jazz Magazine. À l'époque, voici ce qu'il disait à Jean Clouzet et Michel Delorme qui l'interviewaient. « Si j'ai quitté volontairement la scène du jazz, ce n'est pas comme on a pu le croire pour des raisons essentiellement musicales, mais parce que j'avais le désir d'entreprendre certaines études, certaines recherches concernant ma propre personnalité et les buts à donner à mon existence. » Car ce qui compte avant tout, ce n'est pas la musique mais l'homme qui se dissimule derrière elle. Depuis quelques années, je sentais de plus en plus impérativement le besoin d'élargir mes connaissances, d'apprendre à mieux recenser mes possibilités. Or, j'ai compris que mes occupations professionnelles étaient beaucoup trop absorbantes pour me permettre de réaliser ce projet et qu'il m'était absolument impossible d'apprendre à étudier tout en continuant de travailler, de passer mes nuits à jouer en public. Un fait est certain. Pendant ma retraite, j'ai progressé dans de nombreux domaines et j'ai résolu certains problèmes personnels. Si je suis parvenu à donner un nouveau sens à ma musique, c'est parce que ces problèmes ont trouvé leur solution. D'ailleurs, s'il n'en avait pas été ainsi, je ne me serais pas senti capable de reprendre mon ténor et de rejouer. Rejouer, il le fit donc Sonny Rollins en 62 avec The Bridge, tout d'abord. Our Man in Jazz ensuite. Un troisième album sortira dès 62. Il s'agit de What's New. Thank you. En 1962, Sonny Rollins enregistrait What's New pour le label RCA Victor, comme les deux disques qui précédèrent, hein, lors de son grand retour en 62, Our Man and Jazz et The Bridge, également pour la firme RCA. Sur ce disque-là, Rollins accompagne des mêmes musiciens que sur The Bridge, avec le guitariste Jim Hall, le contrebassiste Bon Crapshaw et Ben Riley à la batterie. Un groupe de percussions et de chants rejoint également le quartet sur certains morceaux. C'est un disque qui est influencé fortement par les nouvelles sonorités de la bossa nova, mais aussi par les influences qu'a toujours affectionné Sonny Rollins et qui lui rappelle son enfance, les influences caribéennes. Sur ce titre-là, là, celui qu'on s'entendait qui s'appelait Blue Zongo, il est uniquement accompagné avec son saxophone ténor, de la contrebasse de Bob Crenshaw et des congas de Dennis Charles. Voilà pour cette émission de Jazz à part et de la pause de Sonny Rollins. L'année suivante, en 63, Sonny continuera d'explorer le jazz sur tous les fronts. Il va en 1963 rencontrer son idole de toujours, Coleman Hawkins, pour un disque somptueux, toujours pour RCA Victor, Sonny Meets Hawk, et c'est là-dessus qu'on va se quitter avec la reprise qu'en font les deux hommes du grand, grand, grand standard Yesterday's. Paul Blais est au piano, Henry Grimes ou Bob Crenshaw sont à la contrebasse, Roy McCurdy à la batterie, Sonny Rollins et Coleman Hawkins au saxophone ténor Yesterday's. On est en 1963, vous étiez sur Jazz à part, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien, ciao.
Mm-hmm.